Alors cela ne vous a sûrement pas échappé, mais récemment à Cré, un local technique d'Orange a été incendié, peu de temps après un premier incendie qui avait visé une antenne relais à pas très loin de Cré, à Gigor et Lozeron, dans la Drôme. Conséquence de cela, plus de 6000 clients impactés par cette panne Internet au niveau de la région. Parmi ces clients, donc des particuliers, des entreprises, petites, moyennes, grandes entreprises, comme la Poste, où c'est devenu la galère du jour au lendemain. Et cette semaine, un autre article de journal annonçait que des box et des clés 4G étaient offertes aux clients en attendant la réparation. Et comme vous pouvez le voir, ça s'est passé dans cette salle ou dans celle à côté, il y avait une longue file d'attente de personnes qui attendaient de récupérer ces clés pour retrouver cette connexion à Internet. Alors, pas besoin d'un tel événement pour se rendre compte de la place importante qu'a Internet aujourd'hui. On en a besoin pour nos emails. On en a besoin, les entreprises en ont besoin, les réseaux sont souvent fondés sur Internet. On en a besoin pour communiquer, les emails, toutes les communications visioconférences, etc. Pour de la recherche d'informations, pour du loisir, pour tout un tas de choses. Important, oui, mais est-ce que... On pourrait dire essentiel. Essentiel dans le sens de ce qui est vital. L'air, par exemple, est essentiel à la vie. Nous avons tous des choses qui nous font rêver, des choses qui nous motivent, qui nous poussent à avancer, qui parfois nous préoccupent. Mais est-ce que ces choses sont aussi importantes soient-elles, rentrent dans la catégorie de ce qui est essentiel, de ce qui est vital? Dans le passage que j'aimerais lire avec vous et sur lequel j'aimerais partager ce matin et sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête, il y a trois questions qui sont posées à Jésus. Et ces questions révèlent ce qui anime, ce qui motive, ce qui préoccupe, ce qui est important, ce qui compte pour les personnes qui posent ces questions à Jésus. Et on va voir comment Jésus, par ses réponses, va les recentrer et nous, de manière aussi indirecte, comment Jésus veut nous recentrer. Sur quelque chose de bien plus important, sur quelque chose qui est essentiel et qui est vital, sur ce qui compte vraiment. Mais en trame de fond de ce passage, il y a aussi la question de l'identité de Jésus. Tout au long de l'évangile de Marc, on assiste à la révélation de Jésus en tant que Messie, Fils de Dieu. Et peu de temps avant ce passage, il vient de faire son entrée royale à Jérusalem sur le dos de cet âne. Et il est à quelques jours seulement de son arrestation. Et son autorité est de plus en plus contestée par les responsables religieux juifs. Jésus leur fait de l'ombre et cela les dérange. Alors on va lire ce passage par étapes et on va s'arrêter à chacune de ces étapes. Et voilà la première chose vers laquelle Jésus veut nous recentrer. Des impôts vers celui à qui appartiennent nos vies. Et on va faire la lecture de Marc chapitre 12 et on va lire dans un premier temps les versets 13 à 17. Cependant, ils lui envoyèrent une délégation de pharisiens et de membres du parti d'Hérode pour le prendre au piège de ses propres paroles. Ils vinrent lui dire « Maître, nous savons que tu parles vrai et que tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas à la position sociale, mais tu enseignes en toute vérité comment Dieu nous demande de vivre. Dis-nous, avons-nous le droit de payer des impôts à César? Devons-nous le faire, oui ou non? Mais Jésus, sachant combien ils étaient hypocrites, leur répondit, « Pourquoi essayez-vous de me prendre au piège? Apportez-moi une pièce d'argent que je la voie. » Ils lui en apportèrent une, alors il leur demanda, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ?»« De César. » Alors Jésus leur dit, « Rendez à César ce qui revient à César, et à Dieu ce qui revient à Dieu. » Ils en restèrent tout déconcertés. Alors on a ici des pharisiens qui s'approchent de Jésus avec des hérodiens. Les pharisiens, c'était des juifs qui étaient proches du peuple et qui ne supportaient pas le règne étranger des Romains dans leur pays. Et puis il y a aussi les hérodiens, les membres du parti d'Hérode. Ces personnes étaient des partisans du pouvoir en place, c'est-à-dire qu'ils soutenaient l'occupant romain. Ils soutenaient Hérode, qui lui-même était soutenu par l'Empire romain. En fait, pour les Juifs, c'était un petit peu comme des collabos. Et alors que ces deux parties, en temps normal, sont ennemies, voilà l'enjeu derrière leurs questions. Voilà ce qui est important pour eux. Ils ont quelque chose en commun, là. La présence des Romains au sein d'Israël, au sein du peuple d'Israël. Et cette question qu'ils posent à Jésus révèle cela. Faut-il payer l'impôt à Tibère César, qui était l'empereur romain à ce moment-là? Faut-il payer l'impôt, oui ou non? Et c'est une question piège, et Jésus le sent bien et le sait, et on le voit dans la réponse et la manière dont il leur parle. C'est un traquenard qui est posé là à Jésus. Parce que si Jésus répond oui, il faut payer l'impôt à César, aux Romains, alors il va se faire passer pour un collabo et il risque de se faire lapider par la foule. Et si Jésus répond non, il ne faut pas payer l'impôt à César, alors il sera traité comme un opposant à Rome et il se fera très certainement arrêter. Quelle est la réponse de Jésus? Apportez-moi une pièce d'argent. Puis Jésus leur pose cette question. De qui porte-t-elle l'image? Qu'est-ce qui est inscrit sur cette pièce? Alors les données archéologiques nous permettent de savoir aujourd'hui que sur cette pièce, il y avait donc l'image, le portrait de Tibère César et l'inscription qui était sur cette pièce était celle-ci, Tibère César, fils du divin Auguste. Tibère César, fils du divin Auguste. César prétendait être le fils d'une divinité. Autrement dit, ces pièces contribuaient, dans leur circulation dans le royaume, à promouvoir le culte de l'empereur. Quelle réponse Jésus fait-il à cela? Rendez à l'empereur ce qui appartient à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. Autrement dit, la réponse est claire. Vous devez payer vos impôts. Et il en est de même pour nous encore aujourd'hui en tant que chrétiens. Notre appartenance au royaume de Dieu ne nous dispense pas de payer les taxes et les impôts auxquels nous sommes soumis dans notre pays et qui sont en vigueur dans notre pays. Mais il y a une deuxième partie de la réponse de Jésus. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qui est à Dieu ? Cela nous amène à nous poser la question, où est-ce que Dieu a apposé son image ? Genèse chapitre 1, verset 27 nous dit, « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Voilà une première occasion pour Jésus de recentrer sur ses auditeurs sur l'essentiel. De cette question d'impôt, de cette question d'argent, de taxes qui préoccupait ces pharisiens et ces hérodiens, Jésus veut les recentrer, Jésus veut nous recentrer sur ce qui est essentiel et vital. À qui est-ce que moi, j'appartiens ? À qui appartient ma vie ? Dieu est notre Créateur. Il nous a créés à son image. Nous lui appartenons. Ce qui signifie, du coup, que nos vies ne nous appartiennent pas. Je n'ai pas choisi de naître et je ne sais absolument pas quand est-ce que je vais quitter cette terre. Mais Dieu nous dit dans sa parole que nous avons été créés par lui et pour lui. Mais vous avez peut-être dit ou entendu dire un jour ceci, mais c'est ma vie et j'en fais ce que je veux, ce que j'en veux. Et il n'y a rien d'anormal, puisqu'un jour l'homme a pensé qu'il était bon pour lui de prendre son indépendance à l'égard de Dieu, et ça nous a encore été rappelé ce matin. Il a pensé que c'était bon de faire ses propres choix, de prendre ses propres décisions, de mener sa vie comme bon lui semble. Mais là, Jésus nous recentre sur l'essentiel. Oui, cet argent est pour l'empereur, mais notre vie est pour Dieu. Nous avons été créés pour lui. Plusieurs d'entre nous ont placé leur foi, leur confiance en Jésus-Christ et peuvent dire qu'ils sont, à ce titre, chrétiens, des disciples de Jésus-Christ. Et nous ne sommes simplement que des personnes qui ont répondu à l'appel que Dieu adresse à chacun de faire demi-tour et de revenir vers lui, de lui faire confiance, d'être celui qui veut diriger notre vie. Et si ma vie entière appartient à Dieu, cela m'encourage et cela doit nous encourager à réfléchir à des choses très pratiques, comme par exemple, comment est-ce que je peux honorer Dieu avec mon corps ? J'aime beaucoup cette chanson de Jean-Jacques Goldman qui parle des mains et qui nous dit, et il met en avant les deux facettes, avec ces mains que nous avons, nous pouvons faire tellement de bien. Mais ces mains peuvent aussi servir à faire du mal. Comment est-ce que je peux honorer Dieu avec mon corps ? Comment est-ce que je peux honorer Dieu par mes pensées ? Comment est-ce que je peux honorer Dieu avec mes biens, avec mon argent ? Par ma vie entière, en fait. On avance dans la deuxième partie de ce passage où Jésus va nous amener à réfléchir du mariage vers la vie éternelle. Les versets 18 à 27. Marc chapitre 12, versets 18 à 27, je poursuis. Des Sadducéens vinrent aussi le trouver. Ils prétendent que les morts ne ressuscitent pas. Ils lui demandèrent, « Maître, dans ses écrits, Moïse nous a laissé ce commandement. Si un homme meurt en laissant une femme, mais sans avoir eu d'enfant, son frère devra épouser sa veuve et donner une descendance au défunt. Or, il y avait 7 frères. L'aîné s'est marié et il est mort sans laisser de descendant. Le deuxième a épousé la veuve, puis il est décédé, lui aussi, sans avoir eu de descendant. Le troisième a fait de même, et ainsi de suite. Bref, les 7 sont morts sans laisser de descendance. La femme est restée la dernière, puis elle est morte. À la résurrection, quand ils ressusciteront tous, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme ? Car tous les 7 l'ont eue pour épouse. Jésus leur dit, « Vous êtes dans l'erreur, et en voici la raison. Vous ne connaissez pas les Écritures, ni quelle est la puissance de Dieu. » En effet, une fois ressuscités, les hommes et les femmes ne se marieront plus. Ils vivront comme les anges qui sont dans le ciel. Quant à la résurrection des morts, n'avez-vous jamais lu dans le livre de Moïse, lorsqu'il est question du buisson ardent, en quels termes Dieu lui a parlé ? Il lui a dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Oui, vous êtes complètement dans l'erreur. Une nouvelle catégorie de personnes, les Sadducéens qui s'approchent à leur tour de Jésus. Qui sont les Sadducéens ? Le texte nous le dit clairement. Ce sont ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de résurrection. Et ils s'appuient donc sur le Pentateuch, les 5 premiers livres de la Bible, la Torah, la loi, et sur la conviction que Moïse, du coup, n'a jamais parlé littéralement de résurrection. Et voici ce qui les préoccupe, ce qui est important. Puisqu'il n'y a pas de résurrection, donc pas d'avenir après la mort, eh bien, ils vivent pour le moment présent en profitant au maximum des bénéfices qu'ils peuvent en retirer. C'est un petit peu le carpe diem d'aujourd'hui. Jouis de la vie. Profite du temps présent sans te soucier du lendemain. C'est le Hakuna Matata du roi lion. Vis ta vie à ta guise. On n'a qu'une vie. Autant en profiter à fond. Elle est courte. Je ne veux rien avoir à regretter. Et de manière assez surprenante, pour eux qui ne croient pas à la résurrection, ils posent une question à Jésus sur la résurrection. Et ils amènent devant lui un scénario incroyable. Il se bat sur ce texte, effectivement, qui est dans le Pentateuque, dans le Lévitique, et que Dieu a annoncé. Mais ils amènent un scénario qui est juste incroyable, et j'ai envie de dire même presque improbable. Une femme qui devient veuve 7 fois, et de ces 7 unions, aucun enfant. Et leur question est là. Lors de la résurrection, mais dans leur tête, si résurrection il y a, lors de la résurrection, de qui sera-t-elle la femme ? Jésus répond à leur question et leur dit « Vous êtes à côté de la plaque. » Lors de la résurrection, il n'y aura plus de mariage. Le mariage est une institution que Dieu a donnée, qui est temporaire et qui est valable uniquement pour ce temps sur la terre. Et à nouveau, Jésus veut les recentrer et les amener à ce qui est essentiel, ce qui est vital. La résurrection elle-même au verset 26, donc la vie éternelle. Et il fait pour cela allusion à l'épisode du buisson ardent où Dieu a appelé Moïse. Et quand Dieu a prononcé ces paroles à Moïse, qui lui a dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », Abraham, Isaac et Jacob étaient déjà morts à ce moment-là. Et pourtant, Dieu se présente à Moïse en l'appelant comme étant leur Dieu. Il leur dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob ». Il n'a pas dit « J'ai été le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob ». Donc, comme Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, cela signifie que Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. Ils sont auprès de Dieu, avec lui, dans son royaume. Et s'ils sont vivants, c'est qu'il y aura donc bien une résurrection. Il y a bien une vie après la mort. Un jour, tout le monde ressuscitera et vivra pour l'éternité, soit auprès de Dieu, soit loin de Dieu, soit pour une vie exaltante et magnifique, soit pour une vie de souffrance éternelle. Il y a plein de bonnes choses. Il y a parfois des choses toutes simples, mais agréables et appréciées sur cette terre. Et Dieu nous les a données pour qu'on puisse en jouir. Rien de tel qu'une bonne balade, rien de tel qu'un bon repas, une amitié, la vie de couple, un travail dans lequel on s'épanouit, un moment de jeu de société, recevoir un cadeau, et on pourrait allonger la liste. Mais toutes ces choses sont passagères et sont bien fades devant la perspective de vivre éternellement dans la présence de Dieu. On ne peut pas comparer une 2 chevaux et une BMW. Je suis fan des 2 chevaux et mes parents en avaient une. Mais en termes de confort, en termes de vitesse, en termes de sécurité, c'est 2 mondes opposés. Alors, j'ai jamais conduit une BMW, je n'en ai pas. Mais en tout cas, de ce que j'ai entendu des personnes qui en ont, c'est juste excellent. On ne peut pas comparer un tournevis avec une perceuse électrique. Et je crois que Aloïs pourrait pas dire le contraire. Ce qu'il y a de plus excellent sur cette terre n'est rien comparé à ce que Dieu est en train de nous préparer pour celles et ceux qui vont passer l'éternité dans sa présence. Jésus veut nous recentrer sur l'essentiel. La question existentielle n'est donc pas « Est-ce que je vais ressusciter ? Oui ou non ? » Mais « Où est-ce que je vais passer la vie éternelle ? Est-ce que je vais passer cette vie éternelle auprès de Dieu ou loin de Dieu ?» Et une chose est certaine par rapport à cette question, c'est que ce choix, cette décision, est à réfléchir et à prendre du temps de notre vie sur cette terre, parce qu'après, il sera trop tard. On avance sur ce troisième passage, la suite, troisième partie, où Jésus va nous amener du respect des règles vers l'amour d'un Dieu sauveur. Un des spécialistes de la loi s'approcha de lui. Il avait entendu cette discussion et avait remarqué avec quel à-propos Jésus avait répondu. Il lui demanda « Quel est le commandement le plus important de tous ?» Jésus répondit « Voici le commandement le plus important. Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu. Il est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. Et voici celui qui vient en second rang. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. » « C'est bien, maître, lui dit le spécialiste de la loi, tu as dit vrai. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute son énergie, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est bien plus important que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Après cela, personne n'osa plus lui poser de questions. Troisième groupe de personnes qui s'approchent de Jésus, un spécialiste de la loi. Son rôle au spécialiste de la loi était d'étudier la loi, la Torah, et d'essayer d'interpréter tous les commandements de cette loi. Et ce qui était important pour les spécialistes de la loi, c'était d'essayer d'établir une hiérarchie entre les plus de 600 commandements qui sont présents dans la loi que Dieu a donnée. Et ils passaient donc une majeure partie de leur temps à essayer de les classer et à débattre sur ces commandements, lequel est le plus important, lequel est le moins important, comment on peut les hiérarchiser. Et on le voit au travers de sa question à Jésus. Voilà ce qui préoccupe cet homme. Quel est le commandement le plus important, le number one dans tous ceux qui nous ont été donnés? Et Jésus ne répond pas d'abord par un commandement, mais par une affirmation qui constitue le fondement, le socle, la base de toute la religion juive. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, il est le seul Dieu. Et ensuite, il donne le commandement, tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton énergie. À nouveau, Jésus recentre cet homme préoccupé par les lois à ce qui est essentiel. L'amour d'un Dieu unique, l'amour d'un Dieu sauveur. Pour comprendre cette profession de foi, il faut remonter loin en arrière, à une époque où les civilisations adoraient plusieurs divinités. Mais il y a un peuple, à ce moment-là, les Hébreux, qui sont esclaves en Égypte et qui ne parlent que d'un seul Dieu, créateur de toutes choses, créateur de l'univers, créateur de nos vies. Et ce peuple le connaît comme étant leur Dieu, parce que par amour pour ce peuple, Dieu les a libérés de l'esclavage pour les amener dans un bon pays. Après les avoir libérés de l'esclavage, il vient sur une montagne pour se révéler à eux et leur dire qui il est. Avant même de leur donner sa loi, de leur dire comment vivre en tant que peuple de Dieu, Dieu leur rappelle d'abord ce que lui vient de faire pour eux. Combien il les aime. Combien par amour pour eux, il les a délivrés de l'esclavage. Et c'est en réponse à cet amour de Dieu pour lui et à son salut que son peuple, que le peuple est appelé à aimer en retour ce Dieu sauveur, puis de s'aimer les uns les autres. Peut-être que ce qui est important pour vous ce matin, c'est de mener une vie la plus juste possible, de chercher à faire constamment de votre mieux, d'essayer d'être peut-être les meilleurs amis possibles, d'être les meilleurs parents possibles. Peut-être que vous essayez de manger le plus sainement possible, de faire du bien aux autres. Vous essayez d'être honnête, d'être agréable, d'être sympathique, d'aider les autres aussi. Vous essayez de sortir peut-être de cette mentalité de consommation dans laquelle notre société nous a plongés, en essayant de revenir à une vie plus simple. Vous essayez d'avoir de bonnes relations avec les personnes qui vous entourent. Et tout cela est louable. Tout cela est bon Et tout cela est important. Mais Jésus veut nous recentrer ce matin sur ce qui est essentiel par-dessus tout. Est-ce que vous aimez Dieu? Dieu n'attend pas que nous soyons à la hauteur pour nous accepter, parce que de toute façon, nous ne le serons jamais. Personne ici, dans cette salle, n'est à la hauteur. Si on se place devant les standards de Dieu, aussi bon que nous puissions l'être, aussi gentil, aussi sage, aussi équilibré, nous ne serons jamais suffisamment bons pour Dieu. Nous ne méritons rien de lui. Mais dans sa grâce, Dieu lui-même a décidé de nous sauver. Et le jour où l'on saisit la grandeur de ce Dieu plein d'amour, plein de bonté, quand on saisit le sens et la profondeur de ce qu'il a accompli et qu'on répond par la foi à son invitation à être notre Dieu, alors cela change notre manière de vivre. Nous ne devenons pas, en tout cas sur cette terre, des personnes parfaites. On fait encore des erreurs. Mais on sait une chose, c'est qu'on est désormais réconcilié avec Dieu et en paix avec lui. On peut vivre et on a le désir de vivre notre vie pour Dieu, d'apprendre à l'aimer toujours plus et de vivre toujours plus de manière à lui faire plaisir. Ce qu'il est et ce qu'il a fait pour nous impacte notre vie et par conséquence notre relation les uns avec les autres. À trois reprises, Jésus nous recentre sur ce qui est essentiel. De qui aura nos impôts, notre argent? À qui aura notre vie? De la question du mariage et de tout ce qui est passager sur cette terre, à ce qui est à cette question de la résurrection. Où vais-je passer l'éternité? Où est-ce que je vais passer la vie éternelle? Et de ce respect des règles, ce désir de vivre de manière juste et essayer de mettre de l'ordre et des choses de plus importantes aux moins importantes, à cette réalité que Dieu est celui qui nous aime et qu'il attend de nous que nous nous tournions vers lui. Il veut être notre Dieu, que nous puissions aimer à notre tour ce Dieu qui nous a sauvés. Pourquoi est-ce que Jésus recentre ses auditeurs sur ces choses essentielles? Parce que Jésus désire que nous cessions de vivre une vie centrée sur nous-mêmes. Il nous appelle à vivre une vie centrée sur lui, qui lui soit consacrée totalement. Jésus sait ce qui est à Dieu parce qu'il nous a créés. Il était là lors de la création. Jésus nous parle de la résurrection parce qu'il va lui-même, quelques jours plus tard, mourir et ressusciter et remonter auprès de son Père qui est dans les cieux. Et Jésus est celui qui nous amène à connaître notre Dieu Sauveur, parce que quelque temps après ce récit, il va lui-même offrir sa propre vie pour pouvoir racheter les nôtres.